LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Je ne nie pas les bienfaits de la chirurgie, ils sont indéniables. Mais je suis effrayé par les chirurgiens. Du moins par beaucoup de chirurgiens.
L'image du chirurgien au début du 19e siècle, c'est l'image d'un homme qui ne craint pas le sang, qui est capable d'intervenir de façon héroïque souvent sur les champs de bataille. Par exemple, on a l'image de Dominique Jean Larrey, le chirurgien qui a suivi Napoléon dans ses guerres, qui était capable de faire tomber une jambe en 4 minutes, de pratiquer 200 amputations après la bataille de Borodino. Donc effectivement, c'est l'image d'un homme d'action, malgré tout, freiné par la grande mortalité de ses patients.
La plupart du temps, les chirurgiens sont d'habiles ouvriers et d'ingénieux découpeurs. Ils ne sont que cela. Ils travaillent la chair humaine comme le menuisier le bois et l'orfèvre l'or. Ils ont eu cette préoccupation d'assouplir leurs mains, mais pas celle de meubler leur cerveau. Ce qui souvent, dans bien des cas, rend leur intervention dangereuse. Et lorsque par surcroît ils n'ont pas la conscience très nette, très précise, des responsabilités terribles qu'ils assument, alors ce sont de véritables assassins. Des assassins tolérés et respectés. Octave Mirbeau, Les Pères coupent toujours, 1901.
Cela dit, on dispose aussi de moyens d'anesthésie. Évidemment, on ne laisse pas seulement crier les gens. Alors, il y a toute une série de techniques plus ou moins folkloriques à nos yeux. Le ligotage de la personne, il faut empêcher qu'elle se débatte. Notamment lorsqu'il s'agit d'arracher une dent, il faut quelques costauds gaillards qui maîtrisent le pauvre patient à qui on doit enlever sa dent. Ou alors aussi des moyens d'enivrement, par exemple. Aussi avec de l'opium qu'on commence à importer de l'Orient. Donc il y a une certaine anesthésie pharmacologique, l'alcool, l'opium, qui se met en place mais qui n'est pas systématique et au résultat extrêmement aléatoire.
C'est clair que la rapidité était une qualité désirable dans la chirurgie au début du 19e siècle. C'était avant l'introduction de l'anesthésie. Il y avait même des chirurgiens qui mesuraient le temps qu'ils prenaient pour accomplir certaines opérations. Le plus fameux exemple est peut-être celui d'une amputation de l'épaule qui était pratiquée par le chirurgien londonien Robert Liston. Le bras qu'il fallait amputer fut à terre en moins de 15 secondes.
Éviter la douleur en chirurgie est une chimère qu'il n'est plus permis de poursuivre aujourd'hui. Cette affirmation d'un grand maître de la chirurgie française, Velpeau, date de 1839. C'est que la douleur sévissait encore inexorablement, implacablement, dans le domaine chirurgical où tant d'interventions s'accomplissaient sous le signe de la trosse. Grâce à l'anesthésie merveilleusement bénéfique, les salles d'opération allaient cesser enfin d'être d'épouvantables lieux de cauchemar et la chirurgie allait pouvoir prendre l'admirable essor que l'on sait.
L'anesthésie ou la naissance de la chirurgie moderne. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier.
Bon, la chirurgie traditionnelle, c'est-à-dire la vieille chirurgie, s'occupait en principe des lésions sur la surface du corps.
Thomas Schlich.
Et la surface, dans ce cas, inclut les orifices du corps, la bouche par exemple, et aussi les bras et les jambes. Et les chirurgies traditionnelles traitaient des problèmes comme des fractures des os, des blessures, des gonflements, des inflammations de tumeurs ou des abcès. Du coup, ils faisaient des procédures comme poncer des plaies, enlever les tumeurs, gréver des abcès, appliquer des onguents ou dresser des fractures. On peut en fait ajouter que le chirurgien de cette époque-là faisait aussi des saignées. La saignée avait un rôle important dans la médecine traditionnelle. La saignée était utilisée pour évacuer des humeurs nocives ou pour rétablir la balance entre les humeurs du corps. C'était selon les doctrines de la médecine de l'époque. Par contre, la chirurgie moderne s'occupe du traitement des maladies complexes. Ce sont souvent des maladies qui ont leur origine à l'intérieur du corps humain. Un exemple, c'est le cancer, l'ulcère gastrique ou, plus tard, avec la transplantation d'organes, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique, etc.
La saignée est cruciale dans le système de la médecine ancienne.
Vincent Barras.
Il s'agit donc d'ouvrir une veine. C'est pas extrêmement douloureux, hein. On ouvre une veine, souvent du bras, mais à différents endroits du corps, aux pieds, aux genoux, à l'aine, au cou, là où il y a des veines et où on laisse s'écouler le sang. 1 décilitre, 2 décilitres, 3 décilitres, ça, des quantités relativement importantes parfois. L'idée est que dans le sang, il y a toutes sortes d'humeurs qui se mélangent, ce qui donne ce qu'on appelle le tempérament. Et quelqu'un qui a un bon tempérament, eh bien, il est en bonne santé. Quelqu'un qui n'a pas un bon tempérament, et les médecins le voient à la couleur de l'urine, à la couleur du teint, un peu jaune, un peu blafard, un peu, voilà, à toutes sortes de signes. Et ils touchent également le corps et ils se disent, cette personne a un mauvais tempérament. Une des moyens de rétablir le bon tempérament, c'est d'ouvrir les veines et pratiquer ce qu'on appelle aussi la phlébotomie, qui est un terme grec. On coupe la veine et le sang s'écoule, et le sang porteur des mauvaises humeurs, eh bien, après cette saignée, on se sentira mieux. Au moment où on abandonne ce système de pensée comme le corps mélange d'humeurs, mais comme ça devient un endroit où la maladie n'est plus dans les humeurs et dans leur mauvais mélange, mais dans les organes en soi, à ce moment-là, la question de la chirurgie prend une autre importance, disons. Et la chirurgie entre en scène de façon moderne, si on veut, à savoir éradiquer là où il y a le mal. Si on a une tumeur à tel endroit, on ouvre, on extirpe au moyen des outils chirurgicaux. Ça, c'est le principe de la chirurgie moderne. Et la chirurgie moderne se développe à partir des années 1820-1830, avec une conjonction assez extraordinaire, il faut me dire, de la découverte des moyens d'anesthésie, en même temps des moyens techniques, des moyens industriels aussi, toutes sortes de facteurs culturels généraux qui font que la chirurgie, c'est pas juste le génie d'un chirurgien, c'est un ensemble global, une société moderne industrielle qui permet aussi la production d'appareils très sophistiqués, la maîtrise aussi de la chimie pour savoir ce que c'est qu'un gaz et comment l'utiliser dans l'anesthésie. Tout cela fait l'émergence de cette nouvelle chirurgie.
Oui, la chirurgie a eu 4 problèmes à résoudre. La connaissance de l'anatomie, le problème de la douleur, le problème des saignements et le problème des infections.
Thomas Hoguet.
Et finalement, la chirurgie a fait plus de progrès au 19e siècle que pendant les 20 siècles précédents. Alors, les trois sont un bouleversement dans la mesure où, avec l'anesthésie, la question de la douleur commence à être traité. Tout ça se fait assez lentement. Disons que l'anesthésie, c'est autour des années 1840, l'antisepsie à partir des années 1860, et puis l'asepsie vers 1880-90. Donc il faut vraiment attendre la toute fin du 19e siècle pour que les conditions de l'opération chirurgicale moderne se mettent en place. Mais à ce moment-là, c'est vertigineux pour la chirurgie, puisque toutes ces limites précédentes vont sauter, et c'est une ère où on peut tout tenter. Donc il y a une véritable ivresse, une frénésie d'opérations, de conquêtes de nouveaux territoires pour la chirurgie. On peut s'attaquer au cœur, au cerveau. Voilà, c'est abyssal. On opère bien madame 75 ans. La voie d'abord, c'est une sternotomie médiane, verticale. On fera une CEC entre l'aorte ascendante et l'oreillette droite. On restera en normothermie. On fait du sang chaud. Il faudra peut-être prévoir de réinjecter par les ostias éventuellement pendant le temps opératoire. Il y a un bilan préopératoire qui est complet, à part une carotide un peu serrée. Côté infirmière, si vous avez tout le matériel, c'est bon. Côté anesthésie, Grégoire, c'est bon. Côté perfusion, c'est bon. Ah bah là, on y va, on a un go, c'est parti.
Erwan Fleischer, chirurgien cardiaque, CHU de Rennes.
Voilà, donc là, la patiente, elle vient juste d'être endormie. Donc, on va pouvoir maintenant démarrer ce qu'on appelle le technicage. Donc, ça va être la mise en place d'un certain nombre d'éléments de surveillance pendant la chirurgie. Donc, bien sûr, comme elle est placée dans un coma artificiel, elle ne peut pas respirer toute seule. Donc, on met en place une ventilation mécanique avec un poumon artificiel. Et vous avez vu que déjà, notre infirmière anesthésiste s'active. Elle va mettre en place un petit cathéter dans une artère du poignet. Et ce petit cathéter va permettre au médecin anesthésiste d'avoir en permanence une surveillance de la pression artérielle, donc de la circulation sanguine, pendant toute la chirurgie, en instantané, ce sera affiché sur les écrans. On s'aide de plus en plus d'éléments d'imagerie pour mettre en place tous ces tuyaux. Vous avez vu que là, l'infirmière anesthésiste va mettre le petit cathéter dans l'artère dont je vous parlais, sous contrôle échographique, à l'aide d'ultrasons. Alors qu'avant, évidemment, on était de plus en plus, moi-même, j'ai connu, on mettait tous ces tuyaux à l'aveugle. On avait des repères anatomiques. Et là, on a les repères anatomiques, certes, toujours, mais on a en plus l'image. Et on va voir très bien, vous allez voir, l'aiguille qui va aller pénétrer, toucher le vaisseau cible pour améliorer la sûreté et donc la sécurité aussi des patients. Alors, cette patiente, elle vient pour deux problèmes. Elle a un problème sur une valve du cœur. Les valves, c'est une espèce de clapet, en fait, qu'on a dans le cœur. Il y a quatre clapets. Et là, le dernier clapet à la sortie du cœur qui est encrassé, qui se bouche, en fait. Et malheureusement, on n'a pas de desktop pour déboucher les valves. Et donc, le seul traitement possible, c'est de changer la valve. Et vous allez voir, avec une paire de ciseaux, des pinces, des instruments, on va retirer la valve qui est malade et à la place, on va en coudre une nouvelle qui est faite avec des tissus animaux. Donc ça, c'est une première partie de sa pathologie, de son problème. On a aussi regardé ses artères du cœur et on s'est rendu compte qu'elle a une artère du cœur qui est l'artère principale, qui est abîmée, qui est bouchée. Donc on va en profiter pour faire également un pontage, donc une déviation sur l'artère principale du cœur. Un bloc opératoire, c'est un endroit un peu sanctuarisé, puisqu'on va ouvrir le corps des malades. Vous savez qu'il y a des germes et des microbes partout, sur tous les éléments qu'on touche, sur la table là, sur le tabouret qui est là. Il y a évidemment des germes, depuis Pasteur, on le sait, etc. Mais normalement, à l'intérieur du corps, c'est stérile. Et donc on essaye de limiter au maximum les contaminations du site opératoire pour éviter les complications infectieuses. Alors, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, en utilisant du matériel chirurgical stérile, qui donc a été stérilisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'asepsie. Mais on ne veut pas non plus, parce qu'on a tous aussi des germes sur la peau, c'est normal, et c'est même une bonne chose, mais on ne veut pas non plus que ces microbes rentrent à l'intérieur au moment de l'opération. Alors vous allez voir qu'on va badigeonner, un peu comme une peinture avec un pinceau. On va badigeonner la patiente avant de commencer avec un désinfectant. Alors il y en a plusieurs sortes, il y a de la bétadine, il y a de l'ibiscrub. Mais l'idée là par contre c'est de diminuer au maximum la contamination bactérienne sur la peau du patient. Et ça s'appelle donc l'antisepsie, c'est la désinfection cutanée.
Alors en détail technique, de façon générale, et ça c'est quel que soit le type de chirurgie, on essaye de toujours associer un hypnotique, qui là, dans ce cas-là, est le propofol.
Grégoire Legac, médecin anesthésiste.
Un analgésique ou plusieurs analgésiques. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé un morphinomimétique qui est le rémifentanil, qui a pour avantage d'avoir une durée d'action assez courte et surtout qui s'élimine rapidement. Et mon but étant de faire la dose la plus faible possible de morphinique, globalement, j'ai fait un certain nombre de co-analgésiques. Et pareil, toujours sur l'analgésie, quand j'aurai posé le cathéter et autres, je vais lui faire une injection d'anesthésiques locaux au niveau du sternum, dans le but qu'au moment du réveil, elle soit le plus confortable possible. Parce que, en fait, l'anesthésie va permettre au chirurgien d'opérer. Donc on a pour but de créer un coma artificiel, en quelque sorte, endormir le patient pour permettre la chirurgie, sinon ce ne serait pas supportable. Mais également anticiper le réveil et la suite. C'est une chirurgie qui est lourde. Il va y avoir de la réanimation derrière, un certain nombre de cathéters. Ça peut être tout ça source d'inconfort. Et prévoir comment traiter cet inconfort, il faut le faire le plus tôt possible. Et notamment, ça commence dès les premières minutes de l'anesthésie. Où tout ça, tout est déjà, tout le protocole est déjà dans le but du réveil et même de la suite. Le but étant qu'elle aille au fauteuil le plus tôt possible, qu'elle se mette debout le plus tôt possible, qu'elle remonte dans le service le plus tôt possible et qu'elle rentre chez elle le plus tôt possible.
On peut dire que l'anesthésie surgit à la toute fin du XVIIIe siècle, au moment, en particulier en Angleterre, où il y a un groupe de médecins qui s'intéresse à la médecine dite pneumatique.
Vincent Barras.
Alors, c'est un terme, c'est une sorte de mode, les gaz et la médecine. Les gaz peuvent tout guérir. C'est aussi le début de la chimie moderne, où on ne se contente pas de dire qu'il y a de l'air. On sait que l'air est composé de tels gaz. Il y a le développement à des savants du type de Lavoisier, par exemple, qui, au fond, disent de quoi sommes-nous faits, de quoi le monde est-il fait. Les gaz, par exemple, c'est différentes matières, c'est pas juste de l'air. Et on commence à pouvoir aussi, par des moyens techniques, industriels, pouvoir séparer, par exemple, l'oxygène de l'hydrogène, ou faire du protoxyde d'azote. Donc, un médecin anglais, partisan de cette médecine dite pneumatique, ça se passe dans le sud de l'Angleterre, là où il y a des stations balnéaires, où on soigne des patients à l'air, comme ça, et on leur fait inhaler toutes sortes de gaz. Et en particulier, il y en a un qui s'intéresse aux propriétés anesthésiantes. Le terme n'existe pas encore, mais il dit ça soulage ma douleur, ça soulage mon mal de dents. Par exemple, ce gaz, le protoxyde d'azote, qui a également le nom de gaz hilarant, puisque c'est le gaz qui fait rire, soi-disant. C'est aussi un gaz qu'on utilise à partir de ce moment-là dans les phénomènes de foire. Et donc, il y a déjà, à ce moment-là, l'idée que, il s'appelle Davy, ce médecin, et il a la première intuition qu'il est possible, avec des gaz, de diminuer la douleur. Mais c'est pas repris. C'est discuté, mais c'est pas repris par le système de la médecine académique officielle, parce que les théories qui accompagnent Davy et les propriétés de ce gaz sont liées encore à un ancien système. Bref, on confond un peu et on dit, mais il y a à la fois l'idée que ce gaz, d'accord, il vous endort, mais peut-être que en vous endormant, vous allez perdre vos facultés vitales, et au fond, il vaut mieux souffrir et opérer que de ne pas souffrir et risquer de mourir à cause du gaz, par exemple.
Il y a une phrase célèbre que j'ai traduite, hein. Le protoxyde d'azote paraissait jouir, entre autres propriétés, de détruire la douleur. On pourrait probablement l'employer avec avantage dans les opérations de chirurgie qui ne s'accompagnent pas d'une grande effusion de sang. Bon, l'idée a été lancée, si vous voulez, mais personne n'a fait attention à cette phrase.
Marguerite Zimmer.
Du fait que Davy n'était pas chirurgien, il n'a pas été plus loin. C'est un chimiste. Au début du 19e, tous les chimistes itinérants et les étudiants avaient pour habitude d'inhaler ce protoxyde d'azote. Mais c'était ce qu'on appelait les frolic parties. Ils s'amusaient. Et on inhalait à partir d'une vessie de porc.
L'histoire du protoxyde d'azote débute également à la façon d'un jeu. C'est un charlatan qui fait le tour des foires de la Nouvelle-Angleterre et moyennant 25 cents. Les montre aux foules les effets du gaz hilarant. Un dentiste, Horace Wells, assiste à la séance. Le sujet, agité, tombe et se blesse à la jambe, saigne abondamment, mais à sa grande surprise, ne ressent aucune douleur au moment de sa blessure. Wells note le fait et dès le lendemain, arrache une dent sous protoxyde d'azote sans douleur.
Et ce n'est que le 11 décembre 1844, que Horace Wells va réaliser qu'on peut extraire une dent après avoir inhalé ce protoxyde d'azote. Et là, c'est le début de toute l'anesthésie. On aurait pu trouver beaucoup plus tôt, oui, bien sûr. Mais le monde médical ne s'est pas intéressé à tout ça. Et après, Wells s'en va, prend rendez-vous à Boston, au Massachusetts Hospital, avec John Collins Warren, et va essayer de faire une démonstration à l'hôpital même sur un patient auquel il va essayer d'extraire une dent. Malheureusement, ils ont retiré le masque trop rapidement parce qu'il y a quand même des effets d'asphyxie. Et donc, le chirurgien n'y a pas cru du tout.
Bien que Faraday ait décrit dès 1818 les effets stupéfiants de l'inhalation d'éther mélangé à l'air, les cercles médicaux de l'époque demeuraient conservateurs et hostiles à l'emploi d'une drogue qui abolissait la conscience. L'éther devint d'abord un jeu entre les mains des étudiants en médecine, qui se réunissaient autour de cocktails au cours desquels l'excitation provoquée par l'éther remplaçait celle de l'alcool. Le docteur Long, qui avait opéré un malade sans douleur après inhalation d'éther, assistait avec un grand intérêt à ces jeux dont il était l'âme. mais c'est un dentiste étudiant en médecine, le docteur Morton, que revient l'honneur d'avoir fait véritablement entrer l'anesthésie dans la clinique courante. Après avoir endormi tout ce qui se trouvait à sa portée, chien, chat, poulet, rat, il réussit à pratiquer une extraction dentaire sans douleur sous éther.
Le 16 octobre 1846, Morton, William Thomas Green Morton, qui est un ancien collègue de Wells, il n'a que 4 ans de moins que Wells, va utiliser l'éther sulfurique pour la première fois sur les conseils du chimiste Jackson. Il va prendre rendez-vous également avec au Massachusetts Hospital avec le même chirurgien Warren, et à ce moment-là, eh ben ça marche. Ils vont enlever une tumeur sur le cou du patient Gilbert Abbott. Le patient n'a rien senti. Et à ce moment-là, le chirurgien s'écrie « That's no homebook ». Ce n'est pas de la foutaise, ce n'est pas du pipeau. Et là part vraiment toute cette période où on va inventer des appareils, etc., pour la chirurgie. Et fin 1847, on arrive au chloroforme. C'est à Édimbourg que James Young Simpson, il va faire un essai dans sa maison en inhalant du chloroforme. Et quelques jours après, 11 jours après, il va faire des expériences sur des femmes qui sont sur le point d'accoucher. Avec un simple mouchoir, il met du chloroforme sur le mouchoir. Ça marche. Les femmes n'ont aucune douleur au moment où elles accouchent. Pendant une certaine période, on utilise donc l'éther sulfurique. Ensuite, on passe au chloroforme pendant pas mal d'années. Et puis après, on revient de nouveau au protoxyde. Mais le protoxyde n'est utilisé que pour des interventions mineures, comme des extractions dentaires, ouverture d'abcès, ouverture d'un panari, etc. Pour une intervention ORL ou une intervention au niveau de la vessie, il fallait une anesthésie plus profonde et qui pouvait durer plus longtemps, puisque l'opération durait plus longtemps. Et plus on sidérait le patient, plus il y avait des risques. Mais il a quand même fallu attendre très longtemps qu'il y ait un procès très retentissant de Maria Stock, la patiente Maria Stock, pour qu'on réalise que le chloroforme pouvait arrêter le cœur. C'est en 1848.
Avec le chloroforme et l'éther, il y a des sophistications qui se font avec des chimistes qui se mettent à l'œuvre. À ce moment-là, on entre vraiment dans l'ère de la chirurgie, de l'anesthésie, que les chirurgiens vont immédiatement exploiter. Ça, en quelques années, c'est tout à fait impressionnant de voir à quel point cette découverte est extrêmement rapidement utilisée, étudiée, creusée du point de vue scientifique dans les laboratoires. Et assez vite, les chirurgiens, les médecins, sentant là la possibilité d'un réel développement, et on invente à ce moment-là le terme anesthésie, qui devient une pratique dont les chirurgiens vont tirer tout leur profit dès la deuxième moitié du 19e siècle.
L'endormissement est suffisant pour qu'il n'y ait pas de mémorisation.
Grégoire Legac.
Comme je vous l'ai dit, j'ai mis des médicaments qui l'empêchent de bouger puisqu'on a mis des myorelaxants. Il y a un certain nombre d'analgésiques qui vont bloquer la douleur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de conscience derrière. Mon but étant que tout ce qui se passe là ne soit pas enregistré par le cerveau. Quelquefois, il arrivait que les patients soient curarisés, aient l'impression de sommeil extérieur, mais ça n'empêchait pas le cerveau d'entendre et d'enregistrer des informations. Et après, pour remettre ça dans l'ordre, etc., ça peut donner des situations un peu... les patients ont des brides de souvenirs, des choses comme ça, qui ne peuvent pas s'expliquer. Et puis, ça peut être des expériences extrêmement traumatisantes.
Grégoire,
tu peux y aller.
Incision.
Erwan Fleischer.
Vous voyez qu'on utilise encore, on ne cautérise plus au fer rouge, mais on a encore un bistouri électrique qui nous permet quand même un peu d'avancer dans le malade en cautérisant un peu les chairs. Greg, on va scier la scie. Oui, c'est bien.
Thank you.
Donc, oui, je veux bien, oui. Donc là, je viens d'ouvrir le thorax hein, de la patiente. On fait ce qu'on appelle une sternotomie. Ça veut dire qu'on va couper l'os sternal, le sternum. Hein. On le coupe en deux, de façon à pouvoir accéder au massif cardiaque qui se situe derrière. Donc c'est vrai que l'anesthésie a permis plusieurs choses. L'anesthésie a permis de rentrer dans des cavités dans lesquelles on n'allait pas. On faisait que des choses de surface. Donc à partir du moment, milieu 19e, quand l'anesthésie générale arrive, on se dit ça y est, on peut rentrer dans les ventres, on peut rentrer dans les thorax, on peut retirer des morceaux d'estomac, on va pouvoir faire des choses. Voilà. Et surtout, on a le temps. On n'a plus un malade qui hurle, qui est tenu par trois gars costauds. C'était imaginer la scène. Enfin, ça doit être hyper impressionnant. Il fallait être quand même très fort. Voilà. Donc on a le temps. Il faut quand même faire attention à ne pas tomber dans l'extrême inverse et que l'opération dure des heures et des heures et des heures parce que vous allez épuiser les personnels et puis surtout, ça majore le risque infectieux aussi dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en chirurgie cardiaque, encore une fois, on est un peu chronométré. On ne peut pas rester avec le cœur arrêté trop longtemps.
On ne peut pas se faire une idée actuellement de ce qu'était un chirurgien à cette époque.
Edmond Locard, 1960.
Il faut songer pour se rendre compte de ce qu'était la vie d'un chirurgien à cette époque, qu'il n'y avait ni asepsie, ni anesthésie, ni hémostase. Pas de pince hémostatique et pas de bande d'Esmarc. Par conséquent, le malade ou l'opéré saignait tant qu'il voulait, et il voulait beaucoup. Et d'autre part, rien n'empêchait une infection de s'installer. C'était véritablement quelque chose de tragique. Et puis, il y avait l'anesthésie. Des gens qu'on opérait sans les endormir, c'est tragique. J'ai encore vu, dans ce temps-là, une fois, l'opération qui s'appelle la résection inter-ilio-abdominale, qui consiste à enlever complètement une jambe avec la hanche. Et quand on pense que Jean Soul, le grand Jean Soul, faisait des résections du maxillaire supérieur avec une scie, alors que le malade n'était pas endormi. Tout ça était effroyable.
À quelle époque a-t-on commencé à anesthésier ?
Ça remonte au commencement de la Troisième République. Mais l'asepsie remonte à peu près à la même époque. Tous les progrès sont arrivés sensiblement en même temps.
Les pinces hémostatiques également ?
Oui, oui. Alors, les résultats ont été évidemment magnifiques. Mais j'ai encore vu, tout le temps que j'ai passé près de lui, M. Ollier opérer en redingote avec un tablier blanc. Alors il était là, assis à côté du lit, et le sang giclait de tous les côtés, et pas uniquement le sang, et il n'y avait aucune protection. Alors chaque fois, les plastrons de chemise et les manchettes écopaient. D'ailleurs, Péan a opéré en habit noir toute sa vie jusqu'à sa mort. C'était le comble de la distinction. Dans ce temps-là, on opérait qu'en noir, en redingote ou en habit.
Oui, d'ailleurs, on voit des caricatures montrant les chirurgiens avec un haut de forme sur la tête.
C'est ça. Mais quand on compare avec les hommes habillés de blanc qu'on voit dans les romans actuels et dans la vie actuelle, on trouve que les opérés actuels ont bien de la chance et qu'ils ont des protections qui n'ont pas été connues dans ce temps-là.
On peut définir l'antisepsie comme l'utilisation d'une substance désinfectante.
Thomas Schlich.
C'était surtout l'acide carbolique pour éliminer des micro-organismes dans la plaie chirurgicale ou dans l'environnement chirurgical. Et le principe et la technique étaient inventés par un chirurgien britannique au nom de Joseph Lister. Lister a approprié l'idée de Louis Pasteur. Et Pasteur a soutenu que l'air était plein de minuscules germes d'organismes vivants. Et quand ces germes tombent dans une plaie ouverte, ils se multiplient et mènent à la suppuration, qui est éventuellement suivie par la fièvre et non rarement menée à la mort du patient. Et ça, c'était un phénomène que le chirurgien de cette époque-là remarquait de plus en plus. Lister a proposé sa nouvelle méthode. La majorité de ses collègues étaient assez sceptiques. Ils trouvaient que cette technique était trop compliquée, trop onéreuse, trop laborieuse. une telle importance aux détails comme le requérait cette nouvelle méthode n'était pas courante dans la chirurgie de cette époque. C'était considéré comme une forme de pédanterie et de maniérisme. Et la pédanterie, c'était un terme qui était utilisé alors à propos de quelqu'un qui s'encombre de détails superflus. Pour comprendre cette résistance, il faut savoir que plusieurs collègues de Lister avaient déjà introduit leur propre méthode pour gérer le problème des infections post-opératoires. Et ces méthodes étaient surtout basées sur le principe de la propreté dans un sens plus général. C'était sans utiliser des désinfectants. Et ces chirurgiens avaient des expériences assez bonnes avec leur méthode. Et la plupart d'entre eux n'étaient pas très intéressés par la théorie d'infection par bactéries, c'est la théorie des germes, et ils n'utilisaient pas de substances désinfectantes pour éliminer les bactéries. Et cela fait plusieurs décennies jusqu'à ce que l'antisepsie fût généralement acceptée dans la chirurgie. Et Lister, aujourd'hui, il est généralement célébré comme le père de la chirurgie sans infection, mais la réalité est un peu plus complexe.
L'antisepsie, c'est-à-dire, consiste à lutter contre l'infection des blessures.
Vincent Barras.
Et le chirurgien faisant une blessure, en ouvrant le corps, il fait une blessure. L'antisepsie consiste à désinfecter tout ce qui se passe sur le corps du patient. La sepsie résulte aussi des théories de Pasteur, et que pour opérer en sens chirurgical, il faut essayer le moment et l'endroit où l'on opère qu'il soit le plus aseptique possible. Là, de nouveau, on revient au grec, sepsis, infection, a, absence. Donc, ça consiste à, c'est une technique complexe, évolutive, qui consiste non seulement à désinfecter la plaie, antisepsie, et le corps du malade, mais tout le champ doit être préventivement désinfecté, absent de tout microbe susceptible de transmettre une infection. Et donc, les gants, les masques, choses qui vont pas immédiatement être arrivées sur le marché, hein. Les chirurgiens opèrent à main nue jusqu'au tard dans le XXe siècle. On a des images de chirurgiens. Aujourd'hui, ça nous semble extrêmement choquant. Et donc, l'idée qu'il faille mettre des gants, asepsie, pour que mes mains soient vierges de tout germe susceptible d'être transmis au malade, eh bien, ça, c'est l'asepsie. Et ça, c'est quelque chose qui vient après les découvertes de l'antisepsie ou de la pratique de l'antisepsie. Et donc, on peut pas attribuer à une personne en particulier, mais on peut dire aux théories pasteuriennes, c'est le rôle principal dans le développement de ce qui aujourd'hui est devenu la règle, l'asepsie, dans les salles d'opération.
Et un récit qui est assez typique était celui de Richard Volkmann en Allemagne, où le taux de mortalité dans son hôpital en 1872 était de 40% parmi les patients avec une fracture ouverte. Et au moment d'introduire la méthode de Lister, ces 12 derniers patients avaient tous succombé à l'infection. Par contre, après l'introduction de l'antisepsie, Volkmann opérait à une série de 135 cas de fractures ouvertes sans un seul mort. Et ça, c'était assez impressionnant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au début du 19e siècle, les opérations chirurgicales étaient rares. Et c'était le cas même dans les hôpitaux de grandes villes comme Londres, où travaillaient les chirurgiens illustres. Et même là, il n'y avait que quelques opérations par semaine, comme une opération ou deux ou trois par semaine. Et ça changea tranquillement au cours du 19e siècle et encore plus au 20e siècle. Et c'était quand la chirurgie devint une vraie option thérapeutique. Et pas seulement un dernier recours, après tout autre traitement avait échoué. Et au XXe siècle, il y avait dans les grands centres chirurgicaux, il y avait des centaines d'opérations par semaine. Par exemple, dans le Mayo Clinic aux États-Unis ou dans des autres grands centres de la chirurgie moderne.
On peut vraiment dire qu'il y a un lien, en tout cas extrêmement étroit et extrêmement rapide, comme historien, on peut le constater, à partir des années 1850, de la deuxième moitié du 19e siècle, concomitant et directement lié aux effets de l'anesthésie, mais à d'autres effets aussi, la meilleure compréhension de la physiologie, notamment du système nerveux, du système respiratoire, du système cardiaque et de tous les systèmes gastro-intestinaux, qui fait que les opérations ont un fondement, elles ont une logique qu'elles n'avaient pas forcément. Par exemple, quand on comprend ce qui se passe au niveau de l'estomac, on peut prévoir des opérations plus adéquates sur l'ulcère de l'estomac. Des choses toutes bêtes comme ça. Quand on comprend comment fonctionne une cellule tumorale ou un cancer, on adopte des comportements chirurgicaux plus adéquats. Donc il y a d'autres facteurs que l'anesthésie, mais l'anesthésie est en quelque sorte un déclencheur, et on voit au 19e siècle vraiment le développement extraordinaire de la chirurgie, à la fois comme institution. Les chirurgiens deviennent un peu les maîtres de la médecine, c'est en tout cas les plus spectaculaires. Donc ils ne perdent pas tout de leur bravage, au contraire, ils acquièrent un prestige, ils deviennent des personnages importants qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont au fondement de l'organisation même de l'hôpital moderne. Les hôpitaux anciens n'ont pas de salle chirurgie. Les hôpitaux modernes, on peut dire, à partir de 1850 aussi, se construisent autour de la salle de chirurgie. Au centre, la salle de chirurgie, et tout autour, les différents services. Et ça, c'est tout à fait frappant à voir lorsqu'on étudie le développement des hôpitaux. On s'aperçoit que le chirurgien est le personnage central. Et ça, il le doit au développement et à son prestige culturel, mais aussi à son savoir-faire, puisqu'effectivement, à partir de ce moment-là, il y a un sentiment un petit peu de « on peut tout faire ». Et les discours des chirurgiens à la fin du 19e siècle sont vraiment triomphants. Le statut social d'ailleurs des chirurgiens change, y compris dans la loi à ce moment-là, puisque il n'y a plus qu'une profession, celle de médecin chirurgien. En tout cas, c'est comme ça que dans certains pays on les désigne, ou dans d'autres on garde le titre de chirurgien, mais c'est des médecins à part entière. Et peut-être même un peu des leaders, d'une certaine façon, dans les nouvelles facultés de médecine. Le chirurgien a une importance qu'il n'avait jamais eue auparavant dans les sociétés occidentales avancées, en tout cas.
Et ce qui est important est que l'antisepsie et l'asepsie ont changé la mentalité des chirurgiens. Cet effet sur la mentalité était peut-être aussi important que l'effet sur les bactéries. Et ces techniques ont étendu les possibilités de la chirurgie. Du coup, ils ont augmenté la portée de la chirurgie et ils ont fait ça principalement en s'attaquant aux nouvelles régions du corps humain. Et la révolution la plus importante à cet égard était en effet l'extension de la chirurgie dans la cavité abdominale. Parce que traditionnellement, le péritoine, c'est la membrane qui enveloppe les organes dans l'abdomen. Le péritoine était une limite qu'il ne fallait pas franchir traditionnellement. Mais avec les nouveaux moyens technologiques, l'hémostase, l'anesthésie, l'antisepsie et l'asepsie, les chirurgiens avaient développé de la confiance pour pouvoir inclure l'intérieur de l'abdomen dans leur domaine de pratique. Et c'est un mouvement qui a commencé au début de la seconde moitié du 19e siècle. C'était quand plusieurs chirurgiens se penchaient sur l'enlèvement des tumeurs de l'ovaire, c'est l'ovariotomie, et après sur l'enlèvement d'autres processus pathologiques dans l'abdomen. Et cela inclut éventuellement l'utérus et, vers la fin du siècle, l'appendice et la vésicule biliaire. Et en fait, l'enlèvement de ces derniers organes, l'appendice et vésicule biliaire, est enfin devenu une intervention de routine. Et en effet, la plus importante source de revenus pour la majorité des chirurgiens du XXe siècle. Et ensuite, les deux autres cavités traditionnellement interdites, c'était le thorax et le crâne, sont devenus aussi accessibles à la chirurgie. Le 3A, c'est l'anesthésie, l'antisepsie et l'asepsie. Et ces 3A sont en effet des technologies qui avaient une importance fondamentale pour le développement de la chirurgie moderne. Mais il y a d'autres facteurs technologiques qui avaient une importance semblable. Par exemple, des techniques de l'hémostase. Ce sont des technologies comme la suture des vaisseaux ou la pince hémostatique. Et c'est un facteur qui est souvent négligé dans l'histoire de la chirurgie. Mais sans hémostase, il n'y aurait pas été possible d'effectuer des opérations parce que les patients mouraient de la perte de sang. On peut dire que c'était vraiment une révolution.
Là, par exemple, c'est un geste qui a l'air relativement répétitif et anodin de nouer comme ça. En fait, je pense que c'est un des temps les plus importants de l'intervention.
Erwan Fleischer.
Parce que je serre le fil, bien sûr, donc pour faire un nœud. Mais c'est très palpatoire. Alors, je ne peux pas forcément l'illustrer pour les auditeurs, mais si je serre trop, le risque, ça risque de faire fil à couper le beurre et ça va cisailler et couper mon tissu et couper l'anneau aortique. Si je ne serre pas assez, je ne vais pas bien appliquer la valve à l'anneau. Et le risque, c'est que le sang va fuir autour, j'aurai une fuite. Donc c'est quelque chose d'assez palpatoire qu'on sent, la résistance du tissu. Alors parfois, ça peut nous arriver hein, de casser le fil, etc. Avec l'expérience, c'est quand même assez rare. On sent aussi, avec les doigts, la résistance des tissus, si c'est calcifié, si c'est souple. Et ça me guide, par exemple, tout à l'heure, pour ouvrir l'artère coronaire, il faut choisir le bon spot. Il faut choisir la cible. Où est-ce que je vais ouvrir l'artère? En tout cas, moi, je pouvais sentir avec mon index qu'il y avait des plaques calcifiées et que c'était pas là, évidemment, qu'il fallait ouvrir le tuyau, mais il fallait se mettre un petit peu plus bas. Donc tout ça, c'est des informations qu'on a avec nos yeux, nos mains, même si c'est de plus en plus technologique. Alors, je vais vous montrer, par exemple. Là, on va regarder si ma valve est bien cousue. Je vais utiliser un petit crochet. Et de façon un petit peu ancienne, je vais aller regarder s'il y a un passage ou pas. Et vous verrez qu'à la fin de l'opération, de façon beaucoup plus moderne, le docteur Legac, un petit crochet un peu comme chez le dentiste, là. À la fin de l'intervention, le docteur... Aspire bien, mon grand. Le docteur Legac, lui, regardera à l'échographie avec des ultrasons s'il y a une fuite. Voilà, donc j'ai un peu les ultrasons du pauvre, si vous voulez, ce que je suis en train de faire, là. Voilà, un peu à l'ancienne. Mais je regarde si ma valve est bien cousue, s'il n'y a pas de passage, ce qui a l'air d'être le cas. Ciseaux. Après, l'intervention, elle touche, elle se termine. Hein. On va refermer l'aorte et refaire repartir le cœur. Le pontage est fait. La nouvelle valve a été implantée, ciseaux. Je veux bien que tu me réclines un peu. Ouais, parfait, non, comme ça. On est à combien de temps? Ciseaux.
Le geste du chirurgien est un geste qui, effectivement, à mesure qu'il doit tenter de nouvelles opérations, doit s'affiner, doit chercher à inventer de nouvelles techniques. Et c'est intéressant de voir qu'un Alexis Carrel s'est tourné vers une brodeuse de Lyon qui lui a enseigné un certain point de broderie qu'ensuite il a pu transposer pour la suturation des vaisseaux.
Thomas Auguet.
Donc effectivement, au 19e siècle, on a dans les corporations de chirurgiens toujours cette image d'un métier assez viril, hein, où il faut affronter le sang en ayant le cœur bien accroché. Il y a d'autres figures de chirurgiens marquantes, un certain Jean Soule par exemple, qui était un chirurgien lyonnais, qui disait que l'anesthésie c'était la mort de la chirurgie, parce qu'il avait besoin des cris du patient pour le stimuler, un petit peu comme de triompher de la mort, comme dans un sport. Un autre chirurgien dont on raconte qu'il avait coutume, une fois qu'il avait extrait un fibrome, de le lancer dans la gueule de son dog qui l'avalait. Donc voilà, il y a ce côté sportif, viril. À mesure que le travail chirurgical peut prendre le temps, le geste peut être plus raffiné, et cet apprentissage d'un Alexis Carrel auprès d'une brodeuse nous montre que le geste évolue, donc il faudra encore attendre un certain moment pour que le métier s'ouvre aux chirurgiennes, mais on voit tout de même certaines choses qui tentent à évoluer à la fin du 19e siècle.
La chirurgie physiologique était lente, prudente, soigneuse, et elle avait comme but la protection des tissus. Et ce style-là fut développé simultanément en Europe et aux États-Unis.
Thomas Schlich.
Un exemple en Europe, c'était Theodor Kocher en Suisse. Mais il y a un autre en Amérique du Nord, c'est William Halstead aux États-Unis. Le chirurgien en chef à l'hôpital Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. Il était un des chirurgiens qui introduisait ce nouveau style de chirurgie, la chirurgie physiologique. Une réorientation vers une chirurgie, on peut dire, de la réparation ou de la reconstruction. Et ça, c'était en fait la conséquence d'un changement sur le plan conceptionnel. Auparavant, la stratégie était d'exciser, d'enlever des tissus pathologiques. Et à un moment donné, il est devenu clair que cette stratégie avait des limites. Par exemple, quand on enlève des tumeurs dans l'estomac, il faut réparer le trou et il faut reconstruire le tractus gastro-intestinal. Un autre exemple, Theodor Kocher, le chirurgien suisse, il avait perfectionné sa technique d'enlever des goitres. Un goitre, c'est une augmentation de la glande thyroïde. Bon, il a perfectionné sa technique avec ça en sorte qu'il était capable d'enlever l'ensemble de l'organe, toute la glande thyroïde. Mais il a remarqué ensuite que l'enlèvement de l'organe engendrait des problèmes spécifiques dus au manque de la fonctionnement de l'organe. Et sa réaction fut qu'il remplaça cette fonction en transplantant du tissu thyroïdien. Et il a fait cela en 1883. Et ça, ce fut en effet la naissance de la transplantation d'organes. Et Kocher était le premier chirurgien à obtenir le prix Nobel en 1909. Et c'était pour la découverte de la fonction de la glande thyroïde. Et un autre avocat de ce style chirurgical était Harvey Cushing aux États-Unis. Il était en fait un élève d'Halstead. Et Harvey Cushing a postulé que la chirurgie idéale était en effet quelque chose d'ennuyant. C'était une affaire de patience, de retenue et de prudence. Et il disait que le meilleur chirurgien devait se mettre en scène le moins possible. C'était révolution du style, une révolution de la manière de faire la performance. Il y a toujours de la performance là, mais la performance était complètement différente.
Halstead, il développe un geste beaucoup plus lent, et donc effectivement, ce n'est plus le brillant qui épatait le public, puisque certaines opérations au 19e siècle, il faut avoir en tête qu'il y a un caractère spectaculaire aussi de la chirurgie, dans la mesure où elle peut se pratiquer dans des théâtres médicaux, donc avec une assistance qui pouvait regarder l'opération. Donc ces démonstrations publiques vont changer complètement avec la sepsie qui se déroule à huis clos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on exige la stérilité du bloc opératoire moderne, il n'y a plus de public. Et là, c'est déterminant pour l'imaginaire de la chirurgie. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on avait cette image du chirurgien qui vit dans le sang. Un Valéry en parle encore. Le chirurgien, c'est celui qui a réussi à retourner le geste de l'assassin en geste qui sauve. Malgré tout, donc, cette chirurgie qui se déroule dans le sang, à mesure que l'asepsie va se mettre en place, c'est tout un autre imaginaire de la chirurgie qui se déploie, puisque c'est une chirurgie qui se déroule dans un monde à part, un monde d'où les profanes sont exclus, un monde qui requiert aussi une certaine façon de se vêtir, le masque, les gants, voilà, la blouse. ce n'est plus un homme face à un patient, mais c'est une équipe aussi. C'est-à-dire que la pratique chirurgicale, à partir du moment où le bloc opératoire se met en place, ce sont des anesthésistes, ce sont des infirmières, donc c'est aussi une équipe qui va se coordonner.
On va mettre des électrodes. Ok, merci. Tu peux avoir un clip rose, s'il te plaît, Clary. J'ai une petite veine là, qui est en train de s'arracher sur le tronc. Là. Non, ça va. Un autre clip, s'il te plaît. Merci beaucoup. Attends, Greg. Non, non, mais c'est moi qui suis pas bien. Ouais, je pense que là, tu es dedans, là. Est-ce que ça marche comme ça?
La nouvelle dextérité du chirurgien qui a son patient à disposition le temps qu'il veut, c'est qu'il peut raffiner. Et alors, c'est plus seulement la rapidité qui compte, là. La rapidité demeure cruciale pour la chirurgie, mais bien d'autres facteurs, l'élégance du trait et le fait d'avoir, par exemple, dans le cas de la chirurgie radicale, d'avoir éliminé tout ce qui est susceptible de continuer le cancer. Et donc, le côté un peu la virtuosité du chirurgien se marque aussi par l'aspect extérieur de la personne, la qualité de la cicatrice, par exemple, des choses qui aujourd'hui paraissent peut-être un peu plus dérisoires. Voilà ce qui signe la qualité du chirurgien à partir du moment où, au fond, il n'a plus à maîtriser uniquement le paramètre temps. Il faut que j'aille très vite. J'ai une minute devant moi pour réussir mon truc. Si vous avez 5 heures, vous pouvez créer et des sortes de chefs-d'œuvre, entre guillemets, et certains chirurgiens se conçoivent un peu comme des créateurs de chefs-d'œuvre, comme des artistes. Et ils signent leurs œuvres. Hein. Ils disent, voilà, j'aimerais que cette opération, je suis le premier à l'avoir faite, elle s'appellera décidément la mastectomie selon X ou selon Y, selon moi. Donc, on signe son œuvre. Il y a ce côté proche d'un artiste qui veut parachever son œuvre.
Le lien entre la main et l'esprit, c'est au tournant du XXe siècle, tout ça prend davantage d'ampleur, en particulier chez Bergson, la pensée et le mouvant, qui nous dit que la pensée doit remonter de la main vers le cerveau. C'est vrai que c'est très intéressant de voir que toutes ces réflexions sur le lien entre la main et le cerveau progressent à mesure que la chirurgie elle-même ne cesse d'avancer. Et le geste chirurgical est un geste synesthésique. Disons, l'approche de la chirurgie par le chirurgien, elle est synesthésique dans la mesure où elle combine l'œil et le toucher de manière très subtile. Hein, les informations récoltées par l'œil et par le toucher vont se combiner pour pouvoir juger des lésions d'un organe. Le chirurgien donc peut s'aider du toucher. Un Paul Valéry, par exemple, est un acteur majeur de ce dialogue sur la relation entre la main et l'esprit lorsqu'il va être invité par les chirurgiens à s'exprimer lors d'un congrès de chirurgie. Donc il insiste sur la chirurgie comme œuvre de la main.
Un artiste est en vous à l'état nécessaire. Je ne parle de ceux dont le crayon ou la plume ou la gouge s'exercent aux œuvres d'art. Je parle de votre art propre, de celui dont la matière est la chair vive, et qui constitue le cas le plus net et le plus direct de cette chose immense et passionnante, l'action de l'homme sur l'homme. Toute la science du monde n'accomplit pas un chirurgien. C'est le faire qui le consacre. Le nom même de votre profession met ce faire en évidence. Car faire est le propre de la main. Chirurgie, manu opera, manœuvre, œuvre de main. Tout homme se sert de ses mains. Mais n'est-il pas significatif que depuis le XIIe siècle, ce terme « œuvre de main » ait été spécialisé au point de ne plus désigner que le travail d'une main qui s'applique à guérir. Je me suis pris à rêver assez longtemps sur cet organe extraordinaire, en quoi réside presque toute la puissance de l'humanité.
successivement instrumentale, symbolique, oratoire, calculatrice. Agent universel, ne pourrait-on la qualifier d'organe du possible ? Le chirurgien transforme l'état d'un organisme. C'est dire qu'il touche à la vie. Il se glisse entre la vie et la vie.
Paul Valéry, Discours au chirurgien, 1938.
La figure du chirurgien, elle est toujours tendue entre le côté savant fou, l'hubris, celui qui va tenter des opérations nouvelles, parfois en allant un petit peu au-delà des limites de l'éthique. Encore récemment, un chirurgien, Simon Bramhall, a fait une transplantation de foie en signant, à l'aide d'un procédé chimique, l'organe qu'il avait transplanté, comme un artiste signerait son œuvre. Il y a ce côté un peu démiurgique aussi de cette figure du chirurgien. Et donc, qui doit toujours être compensé par une interrogation éthique.
C'était l'anesthésie ou la naissance de la chirurgie moderne, avec Erwan Fleischer, chirurgien thoracique et cardiovasculaire au CHU de Rennes, Grégoire Legac, médecin anesthésiste, Marguerite Zimmer, docteur en chirurgie dentaire, Thomas Auguet, maître de conférences en littérature à Sorbonne Université, Vincent Barras, médecin et professeur d'histoire de la médecine à l'Université de Lausanne, et Thomas Schlich, professeur d'histoire de la médecine à l'Université McGill de Montréal. Merci au CHU de Rennes. Lecture, Laurent Lederer. Prise de son, Alexandre Abergel. Archivina, Delphine André. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.